Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe de planétologues a utilisé la puissance du télescope Webb dans l'infrarouge pour regarder de près les petits satellites internes des systèmes de Uranus et de Neptune, afin de caractériser leur composition de surface. On en sait plus, mais des questions demeurent sans réponse. Ils publient leurs résultats dans The Planetary Science Journal. Matthew Beliakov de Caltech et ses collaborateurs ont utilisé l'imageur proche infrarouge NIRCam du télescope spatial James Webb pour étudier l'environnement proche des deux géantes de glace. Et ça dans une bande de longueur d'onde entre 1,4 et 4,6 microns. Il faut dire que 35 ans après le survol d'Uranus et de Neptune par la sonde Voyager 2, en 86 et en 89, les satellites d'Uranus et de Neptune restent largement sous-étudiés par rapport à ceux de Jupiter et de Saturne. Le manque d'exploration spatiale dédiée, combiné à la difficulté des observations au sol en raison de l'intense lumière diffusée par les planètes, ont laissé les satellites les plus internes des géantes de glace sans caractérisation spectrale de leur surface. Alors ce qu'on a appris depuis Voyager 2 et quelques autres observations avec Hubble et depuis le sol, c'est que le processus dominant qui façonne les petits satellites intérieurs des géantes de glace, c'est le cycle de collision et de réaccrétion ultérieure de matériaux qui doit s'étaler sur des échelles de temps de l'ordre d'un million d'années. Les collisions catastrophiques sur ces lunes à partir des objets de la ceinture de Kuiper et des comètes du nuage d'Oort apparaissent moins fréquentes, se produisant sur des échelles de temps de 2 giganées pour les plus petites lunes et sur des échelles de temps nettement plus longues que la durée de vie du système solaire pour les plus grands satellites intérieurs comme Protée pour Neptune ou Puck pour Uranus. Les plus gros satellites d'Uranus, c'est-à-dire Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon, et de Neptune, c'est-à-dire Triton, présentent tous leur propre géologie et la forte modification endogène de leur surface en fait de mauvaises sondes de la composition originale des géants de glace. Bien que l'histoire exacte des petits satellites internes d'Uranus et de Neptune soit encore inconnue, ils sont probablement une combinaison de matières primordiales des géantes de glace et de comètes interlopes, les objets plus gros étant proches du matériau de la sous-nébuleuse d'origine et les satellites plus petits étant de composition mixte. Bien qu'Uranus ait un ensemble d'anneaux plus grands et plus variés que Neptune, elle a moins de lunes bergées pour ses anneaux, avec les plus intérieurs, Cordelia et Ophélie, qui surveillent, entre guillemets, les anneaux Epsilon et Lambda. Les 9 lunes suivantes d'Uranus, Bianca, Cressida, Desdemone, Juliette, Portia, Rosalinde, Cupide, Belinda et Perdita, partagent toutes des albédos et des pentes spectrales communes avec la deuxième plus grande lune, Portia, et elles sont donc collectivement dénommées le groupe de Portia. La plus grande lune intérieure, Puck, a quant à elle un albédo légèrement plus grand et une pente spectrale distincte dans le visible. Compte tenu du grand nombre de lunes, le système uranien est instable sur des échelles de temps supérieures à 100 méganées, avec des collisions et des réaccrétions attendues. La composante interne du système neptunien se compose, elle, de 7 lunes. Les plus profondes sont Naïade et Thalassa. Naïade est enfermée d'ailleurs dans une résonance 73 sur 69 avec Thalassa, et les deux lunes sont probablement des tas de décombres en raison de leur densité apparemment faible. Les deux lunes suivantes sont Despina et Galatée, qui sont respectivement des lunes bergers des anneaux de Le Verrier et d'Adams. L'évolution rapide des arcs d'anneaux dans l'anneau d'Adams, sur des échelles de temps de quelques décennies seulement, suggère que les orbites des lunes neptuniennes internes seraient toujours en évolution. Alors ensuite, Larissa est légèrement plus grande, mesurant 200 km, et orbite juste à l'extérieur des anneaux de Neptune. La lune suivante, Hippocampe, n'a été découverte qu'en 2013, et elle est probablement un produit de collision de la plus grande des lunes intérieures, qui s'appelle Protée. Protée présente une asymétrie notable de luminosité avant-arrière dans le visible, qui a été attribuée aux particules chargées de la magnétosphère de Neptune, bombardant l'hémisphère arrière de Protée. Mais la source de l'asymétrie n'est pas claire, et les détails sur la composition de la surface de Protée restent flous. Toutes les lunes intérieures de Neptune ont un albédo visuel tout aussi faible, inférieur à 10%, et aussi des couleurs neutres similaires. Alors Beliakov et ses collaborateurs obtiennent des spectres infrarouges de tous ces petits corps qui leur permettent de donner un aperçu approfondi de leur composition et plus généralement de celle des petits corps du système solaire externe. Les glaces de CO2, de CO, de H2O et de CH3OH sont courantes sur les objets de la ceinture de Kuiper. En comparaison, on sait peu de choses, hein, sur la composition des satellites internes des géantes de glace. Dans le cas de Neptune, par exemple, la capture violente de Triton laisse ouverte la question de savoir ce qui compose les débris de collision qui ont ensuite formé les satellites à l'intérieur de l'orbite de Triton. Pour les satellites uraniens, il est intéressant de chercher la raison de la différence marquée qui existe entre les surfaces très sombres des satellites du groupe de Puck et de Portia par rapport aux satellites réguliers plus brillants. Les résultats des planétologues américains à partir de la photométrie des satellites intérieurs d'Uranus et de Neptune montrent qu'au premier ordre, les petites lunes intérieures semblent toutes avoir un comportement spectral similaire dans l'infrarouge. En moyenne, les satellites neptuniens ont des albédos nettement plus élevés que les satellites uraniens. La caractéristique la plus marquante des satellites observés est une absorption à 3 microns, qui pourrait être attribuée à plusieurs matériaux possibles, selon Beliakov et ses collaborateurs. Les correspondances possibles incluent la glace d'eau ou des minéraux hydratés du tronçon OH à 3 microns, les argiles contenant des sels d'ammoniac telles que NH4+, qui a une caractéristique à 3,07 microns, ou bien des composés organiques aliphatiques et aromatiques complexes. Des combinaisons de ces différents composés sont également possibles, à l'instar des objets de la ceinture de Kuiper qui contiennent à la fois de la glace d'eau et des hydrocarbures. La plupart des satellites présentent une légère pente ascendante entre 1,4 et 2,1 microns, une remontée dans le proche infrarouge caractéristique des objets de la ceinture de Kuiper, moins rouges et excités dynamiquement. Beliakov et son équipe font aussi des comparaisons entre les spectres des satellites des géantes et les données NIRSPEC d'autres petits corps du système solaire externe, en particulier les objets de la ceinture de Kuiper et aussi les chevaux de Troie de Neptune. En supposant les données des deux plus grands satellites internes, Puck et Protée, avec le spectre de l'objet de la ceinture de Kuiper qui s'appelle 2004EW95, et du cheval de Troie neptunien qui s'appelle 2007 VL305, Les chercheurs constatent que les modèles de EW95 de 2004 et de VN305 de 2007 ont aussi tous les deux un creux caractéristique à 3 microns, avec un pic dû à la glace d'eau, et une caractéristique de glace de CO2 à 4,25 microns. Et le KBO EW95 a un albédo particulièrement faible, et il connaît des niveaux d'insolation maximale qui sont similaires à ceux de Protée. De même, les chercheurs pensent que le cheval de Troie neptunien 2007 VL305 a probablement été au point L4 de Lagrange de Neptune pendant 4,5 giganées, ce qui fournit ainsi une excellente comparaison avec Protée en termes de quantité de rayonnement solaire reçu. Ah oui, parce que le rayon et donc l'albédo de VL305 sont inconnus. Et donc les planétologues constatent que Protée correspond bien à ces deux astéroïdes, avec une absorption profonde de 3 microns et des pentes spectrales similaires entre 1,4 et 2,1 microns et 3 à 4,6 microns. Mais il existe aussi de nombreux KBO et chevaux de Troie de Neptune qui ne partagent pas ces caractéristiques spectrales. De nombreux KBO ont des albédos significativement plus élevés que ceux mesurés pour Protée, ainsi que des pentes spectrales clairement plus rouges dans le visible et le proche infrarouge. De plus, les chevaux de Troie de Neptune, avec des pentes spectrales visibles très rouges, comme VX30 2013 par exemple, ne présentent pas la hausse de 3 à 4,6 microns dans le spectre que montrent Protée et Puck. Alors les satellites saturniens offrent également un point de comparaison important pour les chercheurs. De nombreux satellites saturniens ont un albédo élevé, comme Encelade, Tétis, Japette dans sa face arrière, et qui sont donc très distinctes de l'ensemble des satellites uraniens et neptuniens observés. Mais Phoebe, ou la face avant de Japette, sont plus sombres et constituent un meilleur point de comparaison. Phoebe et Japette ont en fait tous les deux des spectres similaires à ceux de certaines lunes neptuniennes et uraniennes, avec une grande profondeur de la caractéristique à 3 microns et une correspondance des pentes spectrales de 1,4 à 2,1 microns et de 3 à 4,6 microns. Alors finalement, la recherche d'analogues spectraux des petits satellites des géantes de glace révèle deux classes possibles de corps. Tout d'abord les objets sombres et glacés de la ceinture de Kuiper, et puis deux des satellites saturniens, Phoebe et Japette. Bien que tous les analogues du système solaire qui correspondent aux données des petits satellites présentent des caractéristiques claires d'absorption de la glace d'eau, la nature à faible résolution des données empêche Beliakov et ses collaborateurs d'exclure l'ammoniac, les matières organiques et les minéraux hydratés comme moteur de la caractéristique à 3 microns dans les données spectrophotométriques. Si les satellites internes d'Uranus et de Neptune sont similaires au KBO, avec une caractéristique à 3 microns due à la glace d'eau, ça pourrait indiquer soit que la glace d'eau était stable dans les sous-nébuleuses des géantes de glace, dans le rayon de formation de Puck et de Protée, ou soit que les satellites internes sont un mélange de matériaux de collision provenant de comètes, de KBO et de satellites internes primordiaux. Bien que de la glace d'eau puisse être présente sur ces objets, elle ne peut en tout cas pas être l'élément dominant composant toutes les petites lunes uraniennes et neptuniennes, et en particulier pas les plus intérieures. Eh oui, French et collaborateurs, en 2024, ont constaté que la densité des satellites internes d'Uranus augmente plus on se rapproche de la planète, ce qui est cohérent avec la densité critique de roche. Le plus interne des satellites internes doit être composé d'un matériau d'une densité supérieure à celle de la glace, potentiellement compatible avec des silicates ou des matières organiques. Les autres possibilités pour l'absorption à 3 microns qui existent semblent moins probables selon les chercheurs. L'effet du radical OH dû aux minéraux hydratés devrait produire une profondeur de bande plus petite que celle qui est observée. L'ammoniac se trouve dans l'atmosphère des géantes de glace et sur les satellites réguliers du système uranien. Et sa présence sur les satellites internes suggérerait qu'ils sont constitués de matériaux primordiaux, car l'ammoniac n'est pas courant dans toute la ceinture de Kuiper. Les chercheurs notent que la planète naine Cérès, par exemple, présente aussi une caractéristique importante à 3 microns, qui est attribuée à l'ammoniac, justement. Mais sa profondeur de bande est beaucoup plus petite que celle des petits satellites neptuniens et uraniens. Le cheval de Troie de Jupiter qui s'appelle Eurybates est un autre exemple de corps du système solaire qui a un albédo similaire à celui des lunes uraniennes internes et qui possède lui aussi une caractéristique à 3 microns qui est attribuée au radical OH mélangé à des matières organiques. Mais ces matières organiques semblent également ne pas correspondre, parce que la profondeur de l'absorption à 3 microns sur Eurybates est nettement plus faible que dans les observations des petites lunes uraniennes et neptuniennes. Alors, afin de résoudre les questions encore qui se posent sur la formation des satellites autour des géantes de glace, de nouvelles observations ayant une couverture spectrale plus large, par exemple de 0,6 jusqu'à 5 microns, toujours avec Webb et NIRSpec, pour les satellites internes de Neptune et de Uranus, seront encore nécessaires pour mieux identifier les compositions de surface de ces petits objets. Voilà, l'article de Mathieu Beliakov et ses collaborateurs est paru dans The Planetary Science Journal, le volume 5, daté du 22 mai 2024. Il porte le titre « Spectrophotométrie de Webb sur les petits satellites de Uranus et de Neptune ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut !